Actuellement, les protestations des agriculteurs allemands, mais aussi européens, sont sur toutes les lèvres. L'émission Klar TV en allemand, La lutte pour la survie des paysans, diffusée récemment, résume parfaitement le fait que les mesures de réduction des dépenses du gouvernement ne sont que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'oppression des paysans. D'autres émissions aborderont la question de savoir dans quelle mesure les agriculteurs ont été instrumentalisés ou non par les protestations et pourquoi ils sont présentés sous un mauvais jour par les médias grand public. Alors consultez régulièrement Klar TV. Le fait est que l'ONU, l'OMS et le FM ont déclaré la guerre aux agriculteurs et aux produits alimentaires traditionnels. Leur agenda 2030, comme Klar TV l'a déjà signalé dans plusieurs émissions, s'attaque également aux agriculteurs en particulier. Voici une brève reprise de l'émission Agenda 2030, étiquetage frauduleux. Comment l'ONU entraîne le monde dans l'abîme? L'objectif 2 de l'agenda 2030 prévoit, selon ses dires, d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir une agriculture durable. Cependant, l'agriculture naturelle à petite échelle est en train d'être détruite, alors que dans le même temps, les multinationales contrôlent de plus en plus la production alimentaire mondiale par le biais de l'agriculture industrielle, du génie génétique et des produits agrochimiques. La situation des paysans, qui sont des piliers de notre société, est déplorable. Mais ce n'est pas un hasard, comme vous pourrez le constater dans la suite de l'émission. Plus précisément, le sort des paysans est très étroitement lié à celui de nous tous. Un résumé de l'essai « L'arme alimentaire » de l'écrivain et journaliste indépendant allemand Tom Oliver Hoggenauer montre comment l'alimentation, base de l'existence, a déjà été utilisée dans l'histoire et l'est encore aujourd'hui comme arme contre l'humanité.
Und genauso auch heute als Waffe gegen die Menschheit eingesetzt wird.
En décembre 1974, Henry Kissinger a rédigé un document stratégique secret pour le Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Il portait le titre bureaucratiquement lourd d'implication de la croissance démographique mondiale pour la sécurité des États-Unis et les intérêts outre-mer. La stratégie esquissée par Kissinger est devenue la ligne politique officielle du président Gerald Ford en 1975. La croissance démographique aura de graves répercussions sur les besoins alimentaires, lit-on. C'est pourquoi l'aide alimentaire aux pays en développement devra peut-être être liée à des programmes de stérilisation obligatoires ou à des quotas de réduction de la population, conclut Kissinger. Ce raisonnement conduit le géostratège qui travaille pour l'influent clan Rockefeller à la conclusion amorale que dans un tel scénario, l'alimentation devient un instrument de puissance nationale efficace. Il déclare que l'alimentation est une arme. Cependant, ce n'est pas une idée nouvelle. Qu'il s'agisse d'un siège au Moyen-Âge ou de l'inflation actuelle, l'alimentation est une arme depuis la nuit des temps. Un levier utilisé par les dirigeants pour contrôler la population. Mais avec les vaccins à ARN messager pour les animaux d'élevage, les spores génétiquement modifiés pour optimiser les chaînes d'approvisionnement mondiales et les paiements CBDC pour l'eau, la lutte pour la survie atteint un autre niveau. Exemple de l'histoire passée. Il y a 3000 ans, les Grecs assiégeaient déjà la ville de Troie pour l'affamer. En Irlande, près d'un million de personnes, soit 12% de la population irlandaise, sont mortes suite à la grande famine de 1845-1849. La cause première n'était pas de mauvaise récolte ou un nouveau type de pourriture de la pomme de terre, mais la politique du gouvernement britannique de l'époque, corrompue par la haute finance et certains groupes d'intérêt. La puissance coloniale britannique est également responsable de la mort de 4 millions d'Indiens lors de la famine au Bengale en 1943. C'est ce que révèle une étude de scientifiques indiens qui ont analysé les périodes de sécheresse des 150 dernières années. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le siège de Leningrad, qui a duré 500 jours, a fait plus d'un million de morts, plus que les bombardements de Hambourg, Dresde, Tokyo, Hiroshima et Nagasaki réunis. Joseph Staline a également utilisé son pouvoir pour mettre à genoux la République socialiste soviétique d'Ukraine par le biais de pénuries alimentaires. L'Holodomor, nom donné à la famine des années 1930, considéré par certains comme un génocide, a coûté la vie à 3 ou 4 millions de personnes. Le cannibalisme n'était pas rare. Sous Mao Tse-tung, au moins 24 millions de personnes sont mortes de faim entre 1958 et 1962. Sa devise était la suivante. Il vaut mieux laisser mourir la moitié des gens pour que l'autre moitié puisse manger à sa faim. Développements actuels. Compte tenu de cet historique, il serait presque naïf de supposer que l'alimentation ne sera pas utilisée comme une arme au XXIe siècle. Toutefois, ce n'est pas par le siège ou la destruction de la flotte adverse, mais par une rupture avec les usages, la pénurie artificielle, la contamination par des substances toxiques, des additifs biotechnologiques, des matières premières génétiquement modifiées, etc. Le nombre de personnes gravement menacées par la faim a doublé dans le monde depuis la déclaration de l'état de pandémie. Les confinements dus au Covid et les pertes de récoltes dues à la guerre en Ukraine ont entraîné des pénuries massives et des ruptures d'approvisionnement. Beaucoup de choses sont devenues très chères, des exploitations familiales et des petites entreprises ont fait faillite. Les agriculteurs subissent une telle pression en raison de l'économie verte et de l'agenda zéro CO2 qu'ils ne peuvent pas faire face aux obligations et aux coûts croissants et descendent dans la rue en désespoir de cause. Mark Rutte a même sorti le matériel militaire contre les révoltes paysannes. Toute l'industrie alimentaire doit être transformée et les aliments naturels doivent être de plus en plus remplacés par des aliments artificiels. L'exemple le plus célèbre est la viande produite en laboratoire. Depuis de nombreuses années, Bill Gates, devenu le plus grand propriétaire foncier des États-Unis, et Google Ventures font preuve d'un grand dynamisme dans ce domaine. Parallèlement, Gates investit beaucoup d'argent dans la recherche et la modification du microbiome, un écosystème complexe composé de bactéries, de champignons, d'archéobactéries et de virus qui, sous le terme général de flore intestinale, contrôle de manière déterminante les processus digestifs et exerce une grande influence sur le développement mental et physique d'un enfant, en particulier au cours de sa première année de vie. C'est ce que veut Gates, qui ne cesse d'exprimer ses préoccupations en matière de surpopulation. On entend « aider les enfants des pays en voie de développement ». On peut se sentir encore plus mal à l'aise si on considère que dans un avenir proche, les aliments seront livrés avec de l'ARN messager ou de l'ARN ajouté. Ceux qui tirent profit des grandes sociétés pharmaceutiques, comme Bill Gates, annoncent depuis longtemps leur intention de distribuer ces substances expérimentales et nocives dans les aliments, afin de les faire parvenir aux personnes qui ont refusé l'injection anti-Covid. Des entreprises comme Bayer et BioNTech travaillent depuis plus de 6 ans sur des vaccins à ARN messager pour le bétail. Le scientifique et co-inventeur de la technologie ARN messager artificiel, Robert Malone, a souligné à ce propos qu'il y a encore moins de transparence en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine en ce qui concerne les procédures de test et d'autorisation. En d'autres termes, le risque pour l'utilisateur final est peut-être encore plus grand que dans le cas des injections Covid. Le gouvernement canadien propose même sur son site web un aperçu détaillé des produits à base d'ARN et d'ADN utilisés dans le pays. Au moins une poignée d'entre eux sont déjà utilisés à grande échelle. Les vaccins basés sur le génie génétique sont donc déjà utilisés malgré toutes les affirmations contraires. Ils sont simplement commercialisés sous d'autres labels. Les vaccins dits auto-disséminés, c'est-à-dire des vaccins qui se propagent eux-mêmes, devraient aussi bientôt être utilisés. Dans ce cas, les vaccins ne sont administrés qu'à quelques porteurs qui servent de multiplicateurs et transmettent l'information génétique au reste de la population concernée par différentes voies de transmission. De plus, à l'avenir, des spores génétiquement modifiés seront utilisés pour contrôler les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les microbes seront utilisés comme dispositifs de suivi. Chaque aliment devrait à l'avenir pouvoir être tracé depuis le champ jusqu'à la fourchette dans la bouche. Les données sont converties en ADN qui est ensuite introduit dans des micro-organismes. Ces micro-organismes peuvent être transférés à tout produit agricole, qu'il s'agisse de bœuf ou de porc, de légumes, de fruits ou de céréales. Ce code-barre ADN, comme l'entreprise appelle cette prétendue innovation, ne peut être détruit ni par la chaleur ou le froid, ni par le lavage et le hachage du produit. De plus, le produit contient des toxines qui, à faible dose, sont toutefois considérées comme, écoutez, généralement inoffensives.
Toutes ces évolutions dans le domaine de l'alimentation font de l'organisme humain un champ de bataille, car l'alimentation peut être et va être utilisée comme une arme, un instrument de domination de quelques-uns en arrière-plan. Il est évident que l'UE est elle-même un suppôt de ses dominants, car elle s'engage pour la régulation de l'élevage privé et veut rendre de plus en plus difficile l'autoproduction de denrées alimentaires. Au Nigeria, on en même allé plus loin. Après les Bahamas, ce pays africain est le deuxième qui a introduit la monnaie électronique de la banque centrale, la CBDC. Désormais, seules les personnes qui scannent leur code QR ou RFID CBDC peuvent obtenir de l'eau au Nigeria. Il est donc fort possible que ceux qui s'insurgent contre le gouvernement sur leur profil de médias sociaux liés au compte de la banque centrale seront bientôt assoiffés ou mourront. Une parenthèse de CLA TV, l'objectif 6 de l'agenda 2030 prévoit, selon ses dires, de garantir la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. On constate que 90% de l'eau dans le monde est contrôlée par une série de multinationales qui en font de plus en plus un produit de luxe et empêchent toute autosuffisance et indépendance des populations. Il est intéressant de noter que le symbole utilisé pour l'agenda 2030 est le même que celui utilisé pour le Great Reset prononcé par le FEM. Mais il ne faut pas s'attendre à une amélioration de la situation mondiale de la part d'une élite autoproclamée comme le Forum économique mondial. Bien au contraire, leur nouvel ordre mondial n'est rien d'autre que l'enrichissement personnel et la folie de contrôle de quelques oligarques financiers aux dépens de la collectivité. Au vu de ces développements, cette réduction de l'humanité planifiée de longue date doit être révélée au public. Vous trouverez la version originale et intégrale en allemand de l'essai de Tom Oliver Honegenauer sur le site suivant. Diffusez également cette émission le plus largement possible et revenez régulièrement sur CLA TV pour ne pas manquer la suite. CLA TV restera à l'écoute afin d'apporter plus de lumière sur les corrélations apparemment complexes de ce sujet.